Europe Midi, Fabienne Lemoelle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 12h30, ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
On est habitué tous les matins à aller au premier petit café qui est vers le Gardon. Et ben, ce matin, c'est pas possible. L'eau est rentrée partout. Ils sont dans la boue, ils sont en train de nettoyer.
Le soleil est revenu sur le Gard, l'heure est au nettoyage après le déluge d'hier. Les vigilances ont été levées, mais une personne est toujours portée disparue. Comment expliquer un phénomène aussi soudain? Est-il appelé à se reproduire? Nous poserons la question à Olivier Proust de Météo France. Xavier Bertrand, toujours déterminé à être candidat à la présidence de la République, mais avant, il y a le rendez-vous de la confiance des régionales de 2021. C'est ce qu'il a dit sur Europe 1 ce matin. Autre dossier qui l'attend, celui de la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune. Il promet des aides de la région ou de France dont il est président. Mais les pouvoirs publics peuvent-ils vraiment sauver le site? On posera la question à Raymond Soubi, grand spécialiste en stratégie sociale. Il est mon invité. À la une de l'actualité, le Tour de France et sauf coup de théâtre, c'est le jeune Slovène Pogacar qui devrait être sacré sur les champs. À 21 ans, ce serait le plus jeune vainqueur du Tour de l'après-guerre. Toujours dans le journal de la mi-journée, le bras de fer Trump-Biden pour savoir qui succédera à la doyenne de la Cour suprême. Et puis un nouveau sursis pour l'application TikTok aux États-Unis. La météo, on le disait, le déluge est tombé hier sur le Gard. Plus aucun département vigilance rouge ou orange ce midi, nous dira Valérie Darmon. Mais le temps reste instable sur une grande partie du pays.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans les gares, les habitants ont les yeux tournés vers le ciel, même si l'heure est à l'accalmie. Une personne, une aide-soignante de l'hôpital du Vigan est toujours portée disparue. Plus aucune vigilance, je vous le disais, le soleil est même revenu, mais de nouvelles pluies sont attendues dans l'après-midi. En attendant, Jean-Gabriel Bourgeois, vous vous trouvez à Anduze pour Europe 1. L'heure est au nettoyage et les habitants n'en reviennent toujours pas de cette brusque montée des eaux hier.
Oui, ce matin, le Gardon a retrouvé son lit et c'est difficile d'imaginer qu'hier, l'eau est montée si haut, 7 mètres jusque dans les habitations, les restaurants, les bistrots. Véronique vient prendre son café tous les matins dans le centre-ville.
Ça s'est monté très vite, très vite. On a le temps de rien en fait. On est habitué tous les matins à aller au premier petit café qui est vers le Gardon. Et ben, ce matin, c'est pas possible. L'eau est rentrée partout. Voilà, ils sont dans la boue, ils sont en train de nettoyer.
Balai à la main, Jean-Philippe est venu aider le propriétaire du restaurant le plus proche du cours d'eau. Il y a une nouvelle fois beaucoup de dégâts.
À chaque fois, on y a droit. La cuisine, c'est une catastrophe. La boue qu'il va falloir dégager. Il est courageux parce que, franchement, il faut vraiment tenir le coup. Maintenant, on est là, il faut travailler, il faut avancer.
Un peu plus loin, devant le Super U, ce sont les pelleteuses qui dégagent la boue et les branchages tombés au sol. Sous le regard hébété des passants, comme Thierry, venu nettoyer le local de chasse voisin.
Voilà, le Super U, il n'y a plus grand-chose. Et nous, notre local de chasse, inondé, on vient de le nettoyer. Là, et on a fait le nécessaire et on jette... Frigo, congélateur, viande, voilà. C'est une question de routine. Tous les 10 ans, c'est comme ça.
Et ces épisodes cévenols récurrents lassent les habitants qui scrutent le ciel ce midi, espérant ne pas revivre un nouveau déluge dans la journée.
Jean-Gabriel Bourgeois à Anduze pour Europe 1, où la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont attendus en fin d'après-midi. Bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Prévisionniste à Météo France, on vient d'entendre ces habitants marqués par le caractère soudain de ce phénomène. Comment on explique une crue aussi rapide?
Alors tout d'abord, je tenais à signaler qu'il y aura effectivement peut-être des pluies dans la région cet après-midi, mais ça restera d'intensité modérée, hein, rien à voir avec les intempéries qu'ils ont connues. Alors comment ça s'est mis en place? On a une situation météorologique avec, dans les basses couches, des courants qui circulent sur la Méditerranée et qui viennent frapper le relief du sud du Massif central, donc les Cévennes. Et au-dessus de ça, on a de l'air froid d'altitude qui va circuler depuis l'Espagne. Donc ça, c'est une machine à orage très violent. C'est ce qui s'est mis en place le matin et on a donc eu tout particulièrement en intensité, une journée exceptionnelle. Alors, elle est exceptionnelle en intensité. Sur l'ensemble de l'épisode, ça arrive d'avoir de telles valeurs, mais ce qui s'est passé, c'est que ces valeurs ont été atteintes en très peu de temps. Donc, l'implication, c'est forcément une réaction des cours d'eau. On est au pied du massif de l'Aigoual qui va donner dans pas mal de petits fleuves côtiers, hein, l'Hérault, on a le Gardon aussi qui a nécessité une vigilance rouge parce qu'il y a une très très forte réactivité. Ce sont des rivières qui sont habitués à passer de 10 cm à 6 mètres quand il y a cet épisode méditerranéen.
On peut quantifier ce qui est tombé en gros sur les habitants hier, combien de millimètres en combien de temps?
Oui, tout à fait. Alors, on entend pas mal de choses, quelques valeurs un petit peu aberrantes. Alors, donc on peut quand même expliquer les valeurs correctes. Hein, on a des estimations, on utilise des radars pour pouvoir estimer, puis on va vérifier avec nos pluviomètres. On est plutôt sur la fourchette 400 à 550 mm, avec des pointes à 550 mm près de Valrhoga. Alors, on n'est pas dans les valeurs qui sont parfois annoncées de 750 ou même 950, on peut entendre. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans cette fourchette. En revanche, même ces valeurs-là, hein, qu'on a mesurées, sont impressionnantes, voilà, avec des durées de retour de l'ordre d'une centaine d'années. Alors, attention, ce sont des durées de retour sur ce qui est tombé en quelques heures.
Une dernière question, Olivier Proust, est-ce que ce phénomène, on entendait l'inquiétude des habitants, est appelé à se répéter et de plus en plus souvent, on pense à la question évidemment du réchauffement climatique?
C'est une tendance de fond, on peut le voir tant en étudiant le climat passé sur les 50 dernières années où on assiste à une augmentation des cumuls possible sous ces épisodes violents. Et puis, c'est cohérent avec les projections climatiques. Dans le cadre du réchauffement climatique, on voit que les projections climatiques proposent des intensifications des phénomènes. C'est-à-dire qu'on aura plus en plus souvent des phénomènes intenses.
Merci beaucoup Olivier Proust, prévisionniste à Météo France, d'avoir été avec nous ce midi. On a bien compris que cet après-midi, d'autres pluies sont attendues, mais en plus faible intensité.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
Xavier Bertrand, toujours aussi déterminé à être candidat à la présidence de la République en 2022. Mais avant, il l'a bien dit ce matin sur Europe 1, il y aura le rendez-vous de la confiance des élections régionales en 2021 pour lui, le président de la région des Hauts-de-France.
Il faut être candidat pour présenter un projet de société. Je suis plus préparé qu'il y a quelques mois, pas encore autant que dans 20 mois. Vous savez ma détermination à être candidat, donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt.
On voit bien que vous êtes candidat pour 2022, vous nous le dites, mais la prochaine élection, c'est les régionales. Et vous dites aussi que ces régionales, c'est un peu votre primaire.
Disons les choses très clairement, c'est mon rendez-vous de la confiance. Si je gagne cette élection, c'est donc que j'aurai réussi à gagner la confiance de cet électorat populaire. Je pense que celui qui gagnera la fois prochaine, s'il n'a pas la confiance d'une partie de l'électorat populaire, ne pourra rien réussir. Il serait temps dans notre pays qu'on, d'une certaine façon, on dise oui à quelqu'un et à un projet et qu'on arrête de dire non seulement à l'extrême droite.
Xavier Bertrand, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews des Échos, qui a dit aussi que sa région, les Hauts-de-France, était prête à financer une grande partie des investissements pour sauver le site de Bridgestone à Béthune, site dont la direction a annoncé la fermeture cette semaine. On posera la question à Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, président du groupe de conseil en stratégie sociale Alixio, pour savoir si l'État peut vraiment quelque chose pour sauver cette entreprise. Encore près de 13 500 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier en France en 24 heures. Près de 600 malades se trouvent actuellement en réanimation. Et pour faciliter la prise en charge, 75 députés lancent un appel ce matin dans le journal du dimanche. Ils veulent que la population se vaccine massivement contre la grippe cette année. L'idée, c'est en fait de limiter ceux qui pourraient avoir la grippe et qu'on pourrait prendre pour des malades du Covid. À la tête de cet appel, le député de la Loire, Julien Borowitz.
Il est important, sachant que nous n'avons pas encore de vaccin contre le coronavirus, de pouvoir se prémunir de l'épidémie de grippe pour éviter les épidémies croisées avec un engorgement des services d'urgence, des hôpitaux, des cabinets médicaux, avec des retards de diagnostic, parce que malheureusement, en plus, il se trouve que les signes avant-coureurs sont à peu près les mêmes entre le coronavirus et la grippe, donc il est difficile de faire le distinguo. Donc du coup, voilà, l'importance de se vacciner. Alors, différentes populations sont amenées, à mes yeux, à se vacciner en priorité. Ce sont les plus de 65 ans et les personnes à risque. Et puis, de manière plus large, évidemment, tout Français qui a envie de se faire vacciner doit aller se faire vacciner, doit y penser. C'est un geste citoyen, plus que jamais.
Le député de la Loire, Julien Borowitz, avec Damien Mestre. À suivre, Donald Trump veut aller très vite pour remplacer la doyenne de la Cour suprême. Il veut même que ce soit une femme.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
12h40 sur Europe 1 et à 6 semaines de la présidentielle aux États-Unis, le bras de fer se poursuit entre Trump et Biden pour choisir qui succédera à la doyenne de la Cour suprême et surtout quand ce choix sera fait. Donald Trump a été très clair, il veut une nomination très rapide et que ce soit une femme. À Washington, la correspondante d'Europe 1, Sonia Dridi.
Donald Trump veut aller vite, il l'a redit hier soir lors d'un meeting électoral en Caroline du Nord devant des partisans remontés à bloc qui scandaient « remplacer le siège vacant ».
Je vais annoncer un nominé la semaine prochaine et ce sera une femme.
Trump peut compter sur le Sénat à majorité républicaine pour organiser rapidement le processus de nomination. Toutefois, une sénatrice républicaine modérée a déjà annoncé qu'elle refuserait de soutenir son choix. Les élections sont trop proches, dit-elle, et elle pourrait ne pas être la seule. Côté démocrate, Joe Biden met en garde le président.
Let me be clear that the
Les électeurs doivent tout d'abord choisir le président. Et le président doit ensuite proposer un juge au Sénat.
Les démocrates accusent les républicains d'hypocrisie puisqu'en 2016, ils ont bloqué la nomination d'un juge à la haute cour par Barack Obama, estimant qu'on ne devait pas nommer un juge en année électorale. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1.
Et puis autre dossier qui mobilise depuis plusieurs semaines Donald Trump, le dossier TikTok, cette application chinoise pour faire des petites vidéos. Le président américain dit que son téléchargement est une manière pour les Chinois de capter les données des utilisateurs. Téléchargement qui devait être interdit à partir d'aujourd'hui aux États-Unis, mais un nouveau délai vient d'être accordé, Carole Ferry.
Effectivement, on semble très près d'un accord. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise. On le sentait, hein, puisque vendredi, les États-Unis avaient totalement interdit WeChat à partir d'aujourd'hui, mais avaient laissé la porte entrouverte à TikTok. Et bien là, il semblerait que la porte soit grande ouverte. Voici les termes du contrat. L'entreprise américaine Oracle serait chargée de collecter les données des utilisateurs américains de TikTok pour que ces données restent aux États-Unis et ne partent pas en Chine. Et puis un nouveau partenaire entre en jeu, le géant de la grande distribution aux États-Unis, Walmart, qui s'occupera de la gestion commerciale de l'application sur le territoire américain. Les deux entreprises pourront par ailleurs acheter 20% des parts de TikTok avant son entrée en bourse. Si cet accord est signé, les jeunes Américains pourront donc continuer à utiliser l'une de leurs applications favorites. Le projet permettrait également d'embaucher 25 000 personnes aux États-Unis, selon Washington. Enfin, Oracle et Walmart vont verser 5 milliards de dollars au gouvernement pour l'éducation des jeunes Américains, une forme de rémunération pour avoir autorisé cet accord.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Europe 1 sur les routes du Tour de France.
Et sauf coup de théâtre, c'est donc un Slovène qui va être sacré vainqueur du Tour de France ce soir sur les Champs-Élysées. Et pour boucler cette grande boucle avec la dernière étape entre Mantes, la Jolie et Paris, on retrouve notre consultant Richard Virenque. Bonjour Richard.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est donc un Slovène qui devrait être sur la plus haute marche du podium ce soir, mais pas celui qu'on attendait. Mais quel hold-up hier du jeune Pogacar contre son compatriote Roglic.
Et oui, ce dernier contre-la-montre a donné tout le suspense qu'on pouvait y attendre. En tout cas, c'était quand même incroyable. Hein. Pogacar est parti, je pense qu'il pensait pas aller si loin que ça dans la performance. Et Roglic s'est écroulé. Le maillot jaune a pesé peut-être un peu trop lourd sur ses épaules pendant plus de 10 jours. Le tour lui a filé entre les doigts. En tout cas, Pogacar a ravi 3 maillots distinctifs. Il a gagné, bien sûr, le maillot jaune. Il a remporté le maillot à poids. Et bien sûr, comme il était deuxième et meilleur jeune de ce tour, il a gagné aussi ce maillot de meilleur jeune à 21 ans. Je crois que c'est le plus jeune coureur qui ait porté le maillot jaune à Paris.
Alors, est-ce que la dernière étape peut encore changer la donne? On peut imaginer une attaque, une dernière attaque de Roglic et de son équipe?
Et non, c'est fini. 57 secondes. Là, je peux vous dire, c'est pas possible de reprendre sur les Champs-Élysées un écart. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bon, on va avoir une étape qui va être destinée peut-être aux attaquants, mais surtout pour les équipes de sprinteurs. On va voir un bel emballage final, un beau sprint en tout cas pour l'arrivée de sur les Champs-Élysées.
Un dernier mot, Richard. Quel bilan pour les Français qu'on attendait? On en avait parlé ensemble au début du tour. Un peu plus heureux, finalement. Il n'y en a aucun dans le top 10.
C'est vrai que pour le classement général, hormis Guillaume Martin, hein, qui était au contact, qui est dans les 15 premiers de ce classement général, mais c'est vrai qu'on attendait vraiment des Français dans le top 5. Même on espérait rêver avec Thibaut Pinot. C'est pas le cas. Par contre, on a eu des bonnes surprises. Julien Alaphilippe, une victoire d'étape. Maillot jaune, plusieurs jours. Nance Peters, une victoire aussi. Benoît Costefroy, maillot à poids pendant plus de 10 jours. Pierre Roland, on l'a vu beaucoup à l'attaque, ils n'ont pas été récompensés par une victoire, et aussi Rémi Cavagna hier dans le chrono. Donc on a quand même vu des Français à l'attaque. Ça a marché pour certains, moins pour d'autres. En tout cas, ça restera quand même un Tour de France où les Français ont été à l'avant, mais malheureusement on attend depuis maintenant 35 ans une victoire française dans ce Tour. Ça sera pas encore cette année, il faudra encore patienter.
Merci beaucoup Richard de nous avoir accompagnés tous les week-ends pour nous éclairer sur cette grande boucle, et à bientôt.
Merci à vous en tout cas de m'avoir fait confiance, et voilà. En tout cas, j'étais ravi. À bientôt.
C'était le Point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
En football, coup d'envoi de Nice-PSG dans une demi-heure et Mbappé est bien titulaire. On retrouvera Frédéric Alion à 13h. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Baie, produit de fabrication française. Arcade et Baie vous présente la météo.
Et après le déluge qui est tombé sur le Gard hier, on ne disait plus aucun département en vigilance rouge ou orange ce midi, Valérie Darmon, mais le temps reste instable sur une grande partie du pays.
Absolument Fabienne, atmosphère qui reste instable sur une grosse moitié sud et qui donne de fréquentes averses et des orages localement forts, particulièrement sur la région PACA et la Corse, sous de fortes rafales de vent. En revanche, le ciel est plus calme sur le littoral. Les conditions redeviennent un petit peu plus clémentes aux abords du golfe du Lion. De la Normandie au Grand Est en passant par le bassin parisien et les Hauts-de-France, notre après-midi dominical se déroule sous un ciel chargé de nuages d'altitude et un ciel beaucoup plus lumineux qu'ailleurs. Cet après-midi, les valeurs sont un peu plus raisonnables, avec généralement 23 à 27 degrés, localement 20 à 22 près de la Manche, mais encore près de 27 à 29 entre la région parisienne et la Champagne, comme en Corse d'ailleurs.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoile.
À suivre, on va revenir sur le coup de massue pour les salariés de Bridgestone qui ont appris la fermeture de leur usine de Béthune cette semaine. Deux ministres attendus dans le Nord hier. Mais que peut vraiment faire l'État pour sauver leur usine? On va poser la question à Raymond Soubi, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy et président du groupe de conseil en stratégie sociale à Lixio. Il est mon invité dans un instant.
Europe Midi, Fabienne Lemoile.
Deux ministres seront donc à Béthune demain au chevet de l'usine Bridgestone après l'annonce coup de massue de la fermeture du site cette semaine. Et Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a promis ce matin sur Europe 1 que pour sauver le site, sa région était prête à financer une grande partie des investissements. Bonjour Raymond Soubi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, président du groupe de conseil en stratégie sociale à Lixio. Et bien sûr, observateur éclairé des mutations des entreprises depuis des années. Une première question, est-ce que l'État, les collectivités locales, quand on entend encore Xavier Bertrand ce matin, peuvent vraiment quelque chose pour sauver cette usine?
D'abord, je crois qu'il faut bien comprendre que le sujet de la fermeture de Bridgestone annoncée, c'est un sujet déjà ancien. C'est-à-dire, c'est un coup terrible pour la région, bien entendu, et pour les salariés. Mais au fond, chacun savait depuis des années que les fabrications de Bridgestone étaient des pneus qui n'étaient pas des pneus haut de gamme et qui peu à peu sortaient du marché. Et donc il y avait un problème de l'usine de Bridgestone qui ne dépend pas du Covid-19 mais qui lui était tout à fait antérieur. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu de mesure d'adaptation en fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Alors pour répondre à votre question, pour sauver l'usine de Bridgestone, d'abord il faut définir ce que Bridgestone pourra faire à l'avenir. Changer la nature de ses fabrications, donc il faut l'accord de l'entreprise. Et bien entendu, l'État et, comme l'a dit Xavier Bertrand, la région peuvent aider, donner des aides aux entreprises pour faciliter la transformation de leur modèle économique, c'est-à-dire du type de produit qu'elle fabrique.
Sauf que Raymond Soubi, je me permets juste de préciser, qu'est-ce que l'État peut vraiment faire quand on sait que le groupe japonais a déjà refusé par le passé, le maire de Béthune l'a dit cette semaine, les aides qu'on voulait lui apporter?
Oui, mais de toute manière, l'État ne peut pas grand-chose dans une situation qui, comme je l'ai dit, n'est pas vraiment liée au Covid-19, n'est pas conjoncturelle, mais est plus structurelle et plus ancienne. L'État ne peut pas grand-chose. Il peut simplement proposer à l'entreprise, qu'il accepte ou qu'il refuse, une aide pour transformer l'usine. Mais manifestement, la maison mère de l'usine de Bridgestone considère que cette entité-là n'est plus rentable et que par conséquent, la seule possibilité pour elle, c'est de la fermer. C'était d'ailleurs une menace qui planait déjà, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années. Alors chacun gagnait un jour, six mois, un an, mais il y avait un problème de fond. Donc c'est le type de situation dans lesquelles l'État, compte tenu du choc et du nombre d'emplois touchés, ne peut pas dire « je vais intervenir », et il le dit « je vais intervenir ». Encore faut-il avoir l'accord de l'entreprise mère concernée, qui n'est pas enthousiaste à cette idée, parce qu'elle verra bien qu'on lui crée des obligations.
Surtout, Clément Sibyl, je sais que vous êtes un grand défenseur du dialogue social et qu'on voit que chez Bridgestone, le dialogue social, visiblement, n'a pas l'air évident. Il y a eu un accord de compétitivité qui a été refusé par un référendum par les salariés, mais avec aussi des investissements qui paraissaient très faibles à l'époque pour cette mutation que vous appelez justement de l'entreprise.
Oui, c'est-à-dire que Bridgestone est un cas un peu symbolique d'une entreprise où, disons, le dialogue social n'était pas à son summum. Et c'était un euphémisme. Et donc, en vérité, tout le monde se regardait un peu en chaîne faïence dans l'entreprise, tout en sachant pertinemment ce que j'ai dit, que le modèle économique ne fonctionnait plus, et il n'y a pas eu, en temps utile, de mesures de transformation, et notamment de changement des types de produits. Ça, par absence de volonté de l'entreprise, et puis par absence de dialogue social.
Raymond
Soubi,
je vais revenir sur la situation. On a bien compris, Bridgestone, pour vous, ce n'est pas lié à la situation du Covid, mais cette semaine, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Est-ce que cette fermeture, même si elle n'est pas liée au Covid, ne préfigure pas la multiplication des plans sociaux? Est-ce que vous redoutez un taux de chômage jamais connu en France, avec d'ailleurs beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché?
Oui, non seulement je le redoute, mais j'en suis certain. Deux chiffres très simples. Il va disparaître 800 000 emplois dans l'économie française cette année. 800 000 emplois. Vous allez avoir en même temps 500 000 jeunes qui vont rechercher un emploi. Bon, donc il est clair qu'il va y avoir un choc considérable. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce choc, les premiers mois du Covid-19, il a été étouffé en quelque sorte par le chômage partiel massif qu'a instauré l'État. Je vous rappelle qu'un salarié sur deux en France relevait du chômage partiel, c'est-à-dire voyait une partie de ses salaires payés par l'État, ce qui est quand même une situation tout à fait extraordinaire. Là, l'État lève peu à peu, allège, assouplit et diminue les régimes de chômage partiel, et donc la vérité économique et sociale apparaît dans les entreprises, et nous sommes à un moment où dans beaucoup d'entreprises, les dirigeants d'entreprises, en concertation avec les organisations syndicales, souvent, pas toujours, essaient de définir quelle est la bonne méthode. Et la bonne méthode va être différenciée beaucoup selon les secteurs qui ne vont pas trop mal, parce qu'il y a des secteurs dans l'économie française qui ne vont pas trop mal. Je sais pas, prenons l'exemple du bâtiment, des télécoms, ils ne vont pas trop mal. Et puis des secteurs, par exemple les transports, qui vont très très mal. Et donc il va y avoir des mesures à prendre. Alors le gouvernement essaie de pousser toutes les entreprises à passer dans des types d'accords au nom barbare, l'APLD, l'activité partielle de longue durée, qui consiste à dire aux entreprises, négociez pour garder vos salariés le temps qu'il faut, jusqu'à 2 ans, bien. Et en échange, les salariés, parce qu'il n'y aura pas assez de travail, baisseront leur durée du travail, et le temps qui sera ainsi pris sur le travail sera consacré à la formation et à l'amélioration des compétences, et l'État vous aidera. Donc c'est l'idée, passez un mauvais moment, l'État va vous aider, profitez-en pour mieux former les salariés, ça c'est bon pour les entreprises.
Ça c'est bon s'il y a du dialogue social aussi. Alors vous dites aussi, Raymond Soubi, qu'on est dans une société inflammable, ce sera vos derniers mots.
S'il y a un dialogue social, et puis surtout s'il y a des espérances de reprise. Et dans les autres cas, il va y avoir des plans sociaux qui vont se manifester en assez grand nombre, je pense. Et donc, il va y avoir un choc psychologique et politique et social de beaucoup de salariés qui vont dire « je perds mon emploi » ou qui voient des emplois disparaître autour d'eux, alors que pourtant, il y aura eu 100 milliards d'euros mis dans le plan de relance.
Merci beaucoup Raymond Soubi. Je rappelle, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, président du groupe de conseil en stratégie sociale Alixio, d'avoir été avec nous ce midi. On le voit, vaste chantier effectivement, avec ce plan de relance de 100 milliards annoncé il y a quelques jours par le gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. À 13h, vous retrouvez Sophie Larmoyer, Sophie qui reviendra sur la situation des réfugiés qui se trouvent sur l'île grecque de Lesbos.